Comme nous en avons parlé, David Altar a eu la gentillesse de me demander que notre étude aujourd'hui porte sur le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato. Pourquoi le Ramchal? Tout simplement parce qu'il est, l'Azkara, le jour du décès donc de Ramchal, c'est ce soir. Le 26 Iyar, Yesod Sheba Yesod. Et donc, étant donné que le Ramchal est un des personnages les plus importants du judaïsme, donc il mérite quand même une étude qui tourne autour de son enseignement. Donc, le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, vivait au XVIIIe siècle et il a écrit 80 livres. Et nous en avons uniquement 40. 40 de ces livres ne sont pas arrivés à nous, bien que nous connaissons leur existence. Mais du Ramchal, nous n'avons actuellement que 40 livres. Il est mort à l'âge de 42 ans. Donc ça fait à peu près un livre par année de vie. On peut dire que c'est un personnage remarquable du point de vue de sa production littéraire, du point de vue de son univers. Bon, alors tout simplement rappelons une petite chose. Rabbi Moshe Chaim Lutzato, le Ramchal, vivait à Padoue. Padoue, en Italie, pas loin de Venise. Il a eu des maîtres prestigieux. Entre autres choses, un de ses oncles possédait une bibliothèque dans laquelle il y avait toute la littérature de Torah, toute la littérature de philosophie et de culture générale qui pouvait être acquise à l'époque. À l'âge de 12 ans, le jeune Moshe Chaim Lutzato avait lu toute la bibliothèque. Donc il s'y connaissait aussi bien en Torah, dans les différents domaines de la Torah, le Niglé, le Nistar, la partie révélée, la partie cachée. Il était également versé donc dans les philosophies de son temps et dans la culture générale dans son ensemble. Donc à 12 ans déjà, c'était un petit génie, mais il a commencé à écrire assez tard, à l'âge de 15 ans. C'est à l'âge de 15 ans qu'il a écrit un petit livre qui s'appelle Asara Prakim, dans lequel il résume l'ensemble de la Kabbale du Hari, Rabbi Yitzhak Luria. À partir de l'âge de 18 ans, il a des révélations qui lui viennent d'un maguide. Un maguide, c'est une sorte d'ange qui transmet des contenus de sagesse, des secrets de la Torah, à une personne ou à une autre. Nous avons plusieurs tzadikim de ce genre qui, effectivement, avaient des contacts avec les anges d'en haut. Par exemple, Rabbi Yosef Karo a écrit un livre entier du nom de Maguid Mesharim, dans lequel il recopie ce qu'il a reçu, les enseignements de Torah qu'il a reçus de son maître céleste. Ramchal, lui aussi, en avait un. Cet ange lui a transmis ce qu'on appelait le nouveau Zohar, Zohar Sheni, le deuxième Zohar. C'est comme ça qu'il l'appelle, le deuxième Zohar. Et qu'il a écrit en araméen, et qui parle de la Géoula. Et Ramchal a commencé à avoir un groupe d'élèves autour de lui. Un groupe d'élèves qui étudiaient avec lui. Et il a même fondé une yeshiva. Dans cette yeshiva, il avait un nombre assez important d'élèves. Il en avait six. Six élèves. Quand la yeshiva a grandi, elle est devenue une yeshiva avec 10 élèves. C'était le grand maximum de personnes qui étaient admises par Ramchal à son étude. Il y avait une règle dans la yeshiva. Nous avons reçu sont arrivées à nous les règles de comportement dans la yeshiva. Une des choses était qu'il fallait qu'il y ait en permanence une personne qui étudie le Zohar. C'est-à-dire qu'à tout moment de la journée, dans les 24 heures de la journée, il y a au moins une personne qui étudie le Zohar. Donc il y avait des mishmarot, il y avait des équipes qui se relayaient. Il y avait également des lois très importantes. Par exemple, une des règles de la yeshiva, c'est que toute l'étude ne doit pas être dans le but de recevoir pour soi-même un bénéfice ni matériel ni spirituel. La seule motivation de l'étude devait être la réparation de la Shekhina, la présence divine sur terre, et du Klal Israël. Donc, il est assez surprenant qu'il ait pu trouver une dizaine de personnes qui étaient prêtes à tout ça. Un point important qui est parfois oublié, les élèves de Ramchal étaient des étudiants en médecine à l'université de Padoue. Ils étudiaient la Torah, ils étaient également en contact avec la culture générale de leur époque. De manière générale, le judaïsme italien de l'époque était extrêmement ouvert, ouvert à ce qu'on appelait à l'époque les Lumières. Et donc, il n'y avait pas cette, disons, cette gêne par rapport à l'étude du chol, des études profanes, etc. Tout ça n'existait pas en Italie de l'époque. Ramchal lui-même était habillé à la mode de la Renaissance, avec des bas de soie, des dentelles. Il n'avait pas de barbe. Enfin, tout cela correspond à un état d'esprit très différent de ce qu'on peut trouver dans les yeshivot de Lituanie, qui ont justement été influencés, c'est assez surprenant, par le Ramchal. Rappelons une chose importante, il y a un livre du Ramchal qui est devenu un des ouvrages centraux dans toute la littérature hébraïque, c'est le Messilat Yesharim, son livre de morale. Le Messilat Yesharim est le fondement pratiquement exclusif de tout le mouvement du Moussar et du moralisme en Israël. Et donc, ce livre a été étudié en permanence dans les yeshivot. Dans toutes les yeshivot, à un moment de la journée, on étudie et on étudiait le Messilat Yesharim, le sentier de rectitude, comme on traduit ça, du Ramchal. Ce que, dans les yeshivot, on ne savait pas, et Baruch HaShem qu'on ne le savait pas, c'était justement cette insertion du Ramchal dans la culture générale et également les ouvrages kabbalistiques extrêmement importants de Ramchal. Le fait que le Messilat Yesharim s'est répandu dans les yeshivot, c'est ça qui a légitimé par la suite le Ramchal dans tous ses autres ouvrages. Et grâce à ça, aujourd'hui, dans les yeshivot des Haredim même, on étudie parfois les ouvrages kabbalistiques du Ramchal. Autre petite remarque, il a écrit des pièces de théâtre. Des pièces de théâtre. Du Ramchal. Dans un très bel hébreu d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle la littérature hébraïque moderne, pas forcément religieuse, voit dans le Ramchal son fondateur, le fondateur du renouveau littéraire de l'hébreu moderne. Bien avant Ben Yehuda, et ceux qui ont réintroduit l'hébreu comme étant la langue parlée de nos jours. Mais déjà, Ramchal donc écrivait des pièces de théâtre très belles dans un style italien, en hébreu. Chez les académiciens, alors on considère que Ramchal, dans ses pièces de théâtre, ne faisait que se conformer à la mode de son temps. C'est totalement faux. Il suffit de voir les introductions que donne le Ramchal à ses pièces de théâtre, dans lesquelles il explique quelles sont les sources dans le Zohar des scènes de théâtre qu'il écrit. Et donc, en fait, on peut voir dans le Ramchal l'origine de trois mouvements différents dans le peuple d'Israël. D'une part, donc, le mouvement littéraire qui a été repris par les Maskilim. D'autre part, le mouvement du Moussar qui a son origine dans le Messilat Yesharim. Et d'autre part, le chassidisme. Le chassidisme a adopté les ouvrages kabbalistiques du Ramchal. Tout cela, le Ramchal l'a fait déjà à un âge assez avancé. À l'âge de 27 ans, le Ramchal se marie. Et alors, on peut comprendre effectivement qu'il se faisait critiquer par les autorités rabbiniques de son temps. Comment un jeune homme qui n'est que célibataire prétend-il avoir des contacts spirituel avec les mondes supérieurs. Et puis, qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être que ce sont des forces maléfiques. À part ça, Ramchal a été également accusé de sabbatianisme. C'est-à-dire, à l'époque, la secte sabbatéenne, les adeptes de Sabbatai Tzvi, étaient encore assez actifs dans le monde juif, en général en secret, mais il y avait des opinions sabbatéennes qui étaient colportées secrètement dans différents milieux. Et le travail de certains rabbins était de lutter pour extirper les restes de ces sectes. Et un des grands lutteurs contre le sabbatianisme était Rabbi Yaakov Emden. Rabbi Yaakov Emden de Hambourg s'est attaqué également à Ramchal et également à son collègue à Hambourg qui était Rabbi Yonatan Eibeschitz, qui ont été accusés d'être attirés par la secte des sabbatéens. Petite anecdote quand même intéressante. Un jour, Ramchal, qui était encore donc un jour Ramchal, il y a ici quelqu'un qui n'a pas fermé son micro. Un jour, Ramchal, qui était encore jeune, arrive dans la yeshiva de Rabbi Yonatan Eibeschitz à Hambourg, en Allemagne. Et Rabbi Yonatan était déjà âgé, il avait 80 ans, et il aperçoit à la porte du Beth Amidrash, ce jeune homme habillé, poudré, habillé à la mode de la Renaissance. Et alors il crie: Lutsato, enfin tu es venu. Partons d'ici ensemble. C'est-à-dire qu'il y avait une liaison, si vous voulez, une liaison d'amitié entre le vieux Rosh Yeshiva et le jeune Moshe Chaim Lutsato. Finalement, les activités de... D'abord pour en finir avec le sabbatianisme. Ramchal lui-même a écrit un livre contre la secte sabbatéenne. Un petit livre qui s'appelle Qinat Hashem Tsevaot. Ce petit livre, très important, reprend chaque passage du Zohar qui a été exploité par les sabbatéens. Et le Ramchal explique ce que veulent dire ces passages, contrairement aux interprétations sabbatéennes. La conclusion dans les universités, c'est donc que Ramchal était un sabbatéen modéré. Ça ne lui sert à rien de dire qu'il est contre Shabtai Tzvi et d'écrire contre Shabtai Tzvi. Finalement, on l'accusera, quoi qu'il en soit, d'être un sabbatéen modéré. En tout cas, il y a des lettres de Ramchal, une correspondance entre lui et son maître. Le maître de Ramchal, c'était Rabbi Yeshayahu Bassan. Rabbi Yeshaya Bassan interroge Ramchal dans une de ses lettres. Il dit: pourquoi est-ce que tu t'es servi des Yichudim de Nathan de Gaza? Alors, essayons d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est que cette histoire. Nathan de Gaza était le prophète Élie de Shabtai Tzvi. Shabtai Tzvi lui-même se proclamait Mashiach. Il était annoncé par un Eliyahu Hanavi qui était un rabbin, Nathan de Gaza, Nathan HaAzati. Et donc, quand Shabtai Tzvi a abjuré son judaïsme et a embrassé l'islam, alors le tribunal de Venise a obligé Nathan HaAzati de signer un document dans lequel il dit qu'il renonçait à son soutien à Shabtai Tzvi. Enfin, toujours est-il que ce Nathan HaAzati était un personnage douteux. Or, Ramchal se servait des kavanot, et kavanot, ça veut dire les pensées kabbalistiques qui se joignent à la prière, qui sont enseignées par les kabbalistes. Or, Ramchal s'était servi partiellement des kavanot de Nathan HaAzati, ce qui n'a fait que donc enflammer encore plus la critique contre lui. Et donc Rabbi Yeshaya Bassan demande à son élève Ramchal: mais pourquoi est-ce que tu t'es servi des kavanot de Nathan HaAzati? Réponse de Ramchal à son maître. Il lui dit: pour ce qui est des kavanot de Rabbi Nathan, vous voyez donc le danger déjà, il dit Rabbi Nathan, j'ai trouvé une grenade dont j'ai jeté l'écorce et j'ai mangé les graines. Dans une grenade, Il y a les graines sont mangeables, l'écorce est à rejeter. Il dit donc chez Nathan Ahazati, il y avait des choses positives que j'ai prises. Donc on voit à nouveau l'ouverture d'esprit à la limite de l'hérésie, du danger d'hérésie qu'on peut trouver chez dans un personnage de la grandeur de Ramchal. Pour ce qui est donc de ça, c'était donc le premier point pour en finir avec le sabbatianisme. Son livre, Kinat Hashem Tsevaot, est un livre fondamental pour ceux qui veulent voir comment est-ce que Ramchal étudie les passages du Zohar exploités par les sabbatéens. À part ça, à ce moment-là de sa vie, Ramchal a déjà un groupe d'élèves important et il enseigne en secret son nouveau Zohar. Mais un des élèves, le Rav Yekoutiel Gordon de Vilna, tellement admiratif de son maître, commence à publier les enseignements de son maître. Et donc, ça entraîne des réactions du tribunal rabbinique de Venise qui condamne Ramchal à cesser d'enseigner la Kabbale. Et à nouveau, nous avons une lettre de Rabbi Yeshaya Bassan à son élève Ramchal. Il lui dit, pourquoi est-ce que tu as révélé tes secrets à cet Ashkénaze? Tu ne sais pas qu'ils ne savent pas faire de différence, ils sont dangereux, etc. Et réponse du Ramchal à son maître, oui, mais cet Ashkénaze n'est pas comme les autres. Et donc, c'est assez surprenant, mais enfin, c'est comme ça. En tout cas, finalement, Ramchal quitte l'Italie pour se rendre en Hollande. Il pense là-bas avoir plus de liberté. Il passe par la ville de Francfort en Allemagne. Dans la ville de Francfort, à nouveau le tribunal rabbinique l'arrête et le condamne à enterrer ses œuvres. Et donc il enterre son nouveau Zohar et d'autres livres importants qui ne sont pas arrivés jusqu'à nous dans une boîte métallique qui jusqu'à ce jour doivent se trouver enterrés quelque part à Francfort et qu'on n'a pas encore retrouvés. Petite remarque, avant d'enterrer son nouveau Zohar, les élèves de Ramchal recopient le Zohar, et donc c'est comme ça que nous avons aujourd'hui ce texte qui a été publié par Yosef Avivi, et donc nous savons plus ou moins quel était ce que disait Ramchal là-bas. À part ça, il est condamné par le tribunal de Francfort à ne plus écrire de livres de Kabbale et qu'il n'aurait le droit d'écrire que dans le style du Miglé. Effectivement, à partir de ce moment-là, Ramchal écrit de nombreux livres de Kabbale en langage de Niglé, c'est-à-dire sans employer la terminologie kabbalistique, mais il dit exactement la même chose. Il arrive à Amsterdam. À Amsterdam, il commence à écrire de nombreux livres. Il a une activité relativement tranquille et il gagne sa vie en polissant des verres, des lentilles, des lentilles de verre. Il polit donc ses lentilles. À part ça, il donne des cours de rhétorique et de logique. C'est la raison pour laquelle il écrit un livre de logique qui s'appelle le Sefer HaHigayon et également un livre de rhétorique qui s'appelle le Sefer HaMelitzah. Et c'est la base des cours qu'il donnait pour ne pas gagner sa vie par la Torah. À part ça, il écrit un livre de résumé de toute la logique talmudique, c'est-à-dire il prend l'ensemble du Talmud et il explique quelles sont les règles du discours talmudique. Ce livre s'appelle Derech Tevunot. Petite remarque sur ce qui se passe à Amsterdam. C'est à Amsterdam que le Ramchal écrit son livre Messilat Yesharim, le livre de morale fondamentale du judaïsme. Un de ses opposants, donc Rabbi Yaakov Emdin, dont j'ai parlé tout à l'heure, dit que bien que Ramchal est suspect de sabbatianisme, son livre Messilat Yesharim est entièrement kasher. Ouf, heureusement. Et je voudrais rappeler que 2 générations avant Ramchal, il y avait un autre juif qui habitait à Amsterdam et qui gagnait sa vie en polissant des verres, et qui a écrit lui aussi un livre de morale du nom de L'Éthique. Je pense ici à, je parle ici donc de Baruch Spinoza. Et je pense qu'il y a dans le Messiat Yesharim un dialogue contre Spinoza, en particulier à propos de la Midat Ha'anava, de l'humilité. Quand le Ramchal parle de l'humilité, alors rappelons-nous d'abord ce que dit Spinoza. Spinoza dit que l'orgueil est un défaut, parce que l'orgueil est une bêtise, puisque un homme orgueilleux s'attribue des qualités qui ne sont pas les siennes. Mais Spinoza rajoute également que l'humilité aussi est un mal, parce que l'humilité est une faiblesse, c'est une tristesse, et la tristesse est une faiblesse de l'âme, et donc l'humilité aussi est un mauvais caractère, c'est un défaut. Seulement, Spinoza, qui est un peu cynique, dit, il est bon de continuer à enseigner à la multitude que l'humilité est une bonne chose, afin qu'il ne porte pas atteinte aux sages. En tout cas, donc, on voit que Spinoza n'aime pas l'humilité. Par contre, dans le Messilat Yesharim, écrit donc par un autre juif, le Ramchal, à Amsterdam, 2 générations plus tard, il écrit que l'humilité est une des plus hautes vertus. Mais il explique que pour accéder à l'humilité, à la anava, il faut d'abord connaître Dieu. Ce n'est que lorsque l'on connaît vraiment Dieu que l'on peut véritablement être humble. Et pourquoi l'humilité est liée à la connaissance de Dieu? Tout simplement parce que Dieu est absolument transcendant. Et donc, je ne peux, face à la transcendance, que m'effacer totalement. Tandis que pour Spinoza, qui ne croit pas à la transcendance, Spinoza est un panthéiste. Donc, je fais partie du monde. Je suis moi aussi une parcelle de ce Dieu qui n'est autre que la nature. Et donc, je n'ai pas devant qui m'effacer. Conclusion, il y a un rapport entre la théologie et la morale. La théologie de Spinoza l'amène à repousser l'humilité et la théologie de Ramchal l'amène à magnifier l'humilité. Puis, après un certain temps, Ramchal, qui continue à être sujet à des attaques, décide de monter en Eretz Israël. En Eretz Israël, il pense enfin pouvoir tranquillement s'occuper des secrets de la Kabbale sans être gêné par la communauté. Il monte avec toute sa famille. Il arrive à Akko, se rend également à Tzfat et à Tibériade. Finalement, il est emporté par une épidémie de peste, lui et toute sa famille. Et donc, il meurt jeune et ne laisse pas de postérité. Où est-ce qu'il est enterré? Certains disent qu'il est enterré à Akko, enfin près de Akko, à Kfar Yassif, et certains disent qu'il est enterré à Tibériade. Ce débat, à mon avis, n'est pas encore clos, et personne ne sait vraiment où est-ce que Ramchal est enterré. Il y a à Akko une synagogue Ramchal qui était la synagogue dans laquelle il faisait ses prières. Maintenant, parlons un peu des différents livres. Alors, j'en ai parlé déjà, le Messiat Yesharim, le Sefer Hagayon, le Sefer HaMelitzah, le Kinat Hashem Tsebaot. Il y a un livre, il y a deux livres dont je voudrais parler, trois livres qui sont importants. Tout d'abord, le Kelach Pitrei Chochma, les 138 portes de la sagesse. C'est la première fois qu'il y a eu une mise en ordre de la Kabbale du Hari. La Kabbale du Hari, extrêmement ardue, extrêmement compliquée, a besoin d'être expliquée et également expliquée en termes philosophiques et rationnels. Et il y a chez le Ramchal une tentative donc d'expliquer la Kabbale de manière rationnelle. C'est un des livres les plus importants qui sont aujourd'hui étudiés pour comprendre les enseignements du Hari. C'est le Klar Pitrei Chokhma. D'ailleurs, Ramchal, en toute humilité, dit la chose suivante. Les secrets de la Torah ont commencé à être révélés au grand monde par Rabbi Shimon Bar Yochai, mais ce qui n'était pas clair dans les enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai a été clarifié par le Hari, et ce qui n'était pas encore assez clair dans le Hari, Dieu m'a choisi pour le clarifier. Et il se voit comme étant le troisième maillon d'une chaîne de révélation des secrets de la Kabbale. C'est le Klar Pitrei Chochma. Il y a également un livre d'ailleurs plus petit qui contient l'essentiel du Klar Pitrei Chochma, c'est le Proker ou Mekoubal. C'est un débat entre un philosophe et un kabbaliste. Un philosophe qui attaque la Kabbale et Ramchal qui répond aux attaques du philosophe. C'est un livre d'ailleurs avec une certaine pointe d'humour. Ça vaut la peine d'être lu. Il y a un autre livre, le Da'at Tevunot. Le Da'at Tevunot est une sorte de théodicée. C'est quoi une théodicée? C'est un mot employé par le philosophe Leibniz, contemporain de Ramchal, dont Ramchal s'est peut-être d'ailleurs inspiré, qui traite du problème du mal. Théodicée veut dire justification de la justice divine. En effet, un des grands problèmes traités dans le judaïsme, c'est la souffrance du juste. Tzadik vera lo, le juste pour qui ça va mal. Alors qu'il y a le rasha vetovlo, le méchant qui lui réussit. Alors, ce problème est évoqué, par exemple, dans le livre de Iov, dans le Tanakh, étudié par la Guémara dans beaucoup d'endroits, et par Maïmonide également dans le Guide des Égarés, et le Ramchal écrit un des livres les plus profonds qui ont été écrits sur la question, sous forme de dialogue. Les deux dialogueurs sont l'intelligence et l'âme. C'est l'âme qui pose des questions, c'est l'intelligence qui répond. Neshama, Sechet. Et là, le Ramchal développe des idées assez importantes. Tout d'abord, cette idée que le monde connaît une évolution spirituelle et que l'état du monde change. Et les rapports entre matière et esprit changent au cours des générations. Et il y a cette idée donc que le monde est en ascension perpétuelle. Idée reprise par le Rav Kook par la suite dans le Orot HaKodesh, dans la partie appelée Hit'alut HaOlam, l'ascension du monde. Ce qui est d'ailleurs une des sources de la légitimation de la théorie biologique de l'évolution, l'évolution darwinienne, à son origine dans des secrets kabbalistiques. Il y a une correspondance avec les secrets kabbalistiques développée aussi bien par le Rav Kook que par le Ramchal. Mais il y a un point très important à propos du problème du mal. Le problème de la souffrance du juste vient du fait que l'on considère uniquement ce que le Ramchal appelle Anhagata Mishpat, la direction du monde selon la justice. La direction selon la justice, cela voudrait dire qu'il y a un contrat entre Dieu et les hommes, et en particulier avec Israël, comme quoi, lorsque nous faisons le bien, ça va bien, et quand nous faisons le mal, ça va mal. Par exemple, la paracha que nous avons lue ce Shabbat, Bechukotai, elle nous dit cela. Si vous suivez mes voies, ça ira très bien. Si vous ne suivez pas mes voies, ça ira très mal. Or, la réalité dit le contraire. Alors, le Ramchal dit que ce que dit la Torah dans le contrat de la paracha de Bechukotai n'est qu'une partie de la direction de l'histoire. Il y a, indépendamment de la Anhagat HaMishpat, de la direction selon les lois de la justice, il y a également Anhagat HaYichud, la direction de l'histoire pour révéler l'unité de Dieu. Or, selon la direction de l'unité de Dieu, il est tout à fait possible que le mal l'emporte. Cette idée, je voudrais donner ça par une parabole. Si vous avez un grand roi, et que ce roi est accepté par ses adeptes. Ben, ça va de soi. Ce sont ses adeptes, donc il l'accepte. Mais il faut, quand c'est ceux qui se révoltent contre le roi, quand les révoltés acceptent la domination du roi, c'est là que le roi est vraiment grand. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des opposants au roi. Or, ces opposants au roi, le roi étant ici Dieu, les opposants sont les forces du mal. Donc il faut donner provisoirement une certaine force aux forces du mal pour permettre la révélation de l'unité de Dieu. Et donc une réconciliation entre ces deux directions, la Hanagat HaYichud et la Hanagat HaMishpat, c'est-à-dire la direction selon l'unité, la direction selon la justice. Une petite seconde. Voilà, je suis revenu. À partir de là, il y a tout un débat dans le Ramchal autour de la rétribution dans le Olam Haba, la rétribution du corps dans la résurrection des morts et également l'ascension des mondes vers le Olam Haba, c'est-à-dire le monde dans son état futur. Et là, à nouveau, il y a, disons, le génie de Ramchal de traduire des concepts exclusivement kabbalistiques en termes rationnels, compréhensibles par des philosophes ou même des simples étudiants de la Torah. Il y a également un autre livre dont j'avais presque oublié de parler, le Derech HaShem. Le Derech HaShem est une sorte de résumé de la pensée juive qui tourne autour d'une seule idée. C'est ce qu'on appelle la raison de la création du monde. Pourquoi est-ce que Dieu a créé le monde? Alors bon, c'est pas le Ramchal n'est pas le premier à avoir discuté de ça. Ce qui est intéressant, c'est la solution qu'il donne, qui est très originale. La raison de la création du monde est une raison morale. Parce que Dieu est bon, il veut donner de sa bonté aux autres. Donc pour qu'il y ait un autre, il faut qu'il y ait création. Mais il ne suffit pas de donner des bontés à la création. Il faut également mériter cette bonté. Parce que quelque chose que je fais par mérite l'emporte de beaucoup sur quelque chose que je reçois gratuitement. C'est pour ça que d'ailleurs dans la halakha, on considère que donner un prêt d'argent est plus grand que donner un don sans rétribution. C'est-à-dire si je donne à quelqu'un de l'argent et que je n'attends pas de retour, c'est moins bien que de lui faire un prêt parce que le prêt respecte sa personne. Et donc, il y a un principe qui revient souvent chez le Ramchal, ce qu'on appelle Nahama de Kisufa, le pain mangé gratuitement. Quand je mange du pain gratuitement, j'ai honte. Et pour empêcher cette honte, il faut que je gagne mon pain. Et donc, c'est ça la raison pour laquelle l'homme, qui est le centre de la création pour le Ramchal, doit mériter son bien. Il doit ressembler en cela au créateur, de receveur, il va devenir donneur, ce qui est à l'origine de certains principes fondamentaux de la Kabbale du Rav Ashlag dans son commentaire le Soulam sur le Zohar. Il y a également un autre livre qui est le Ma'amar HaGeoula. Vous voyez que je ne fais que vous donner des avant-goûts de ces livres. Je vous invite à remplir votre bibliothèque des œuvres de Ramchal et alors vous aurez donc du temps. Vous avez de quoi remplir votre temps, vous ne serez pas ennuyé. Et je vous donne simplement quelques petites notes. Donc rappelez-vous pour l'instant, nous avons le Messilat Yesharim, le Derech Hashem, le Da'at Tevunot, le Kinat Hashem Tsebaot, le Klar Pitrei Chochma, les pièces de théâtre, la correspondance du Ramchal, son livre de logique, son livre de rhétorique. Son livre également sur comment écrire des poèmes. Il a un livre entier qui s'appelle Lashon Limudim, dans lequel il explique comment est-ce qu'on écrit des poèmes en hébreu. Et également, sa correspondance, donc, et tant d'autres choses. Mais là, je voudrais vous parler d'un petit livre, assez important. C'est le Ma'amar HaGeoula. C'est l'essai sur la délivrance. Alors, on en a parlé, je crois, quand on a parlé de la Shoah. Le Ramchal donne des interprétations kabbalistiques des processus qui mènent à la rédemption d'Israël. Entre autres, il parle également d'une clé spirituelle des événements de la Shoah. Or, le Ramchal, rappelez-vous, écrit cela 2 siècles avant la Shoah. Mais c'est là qu'il emploie la parabole des fenêtres. Pour le Ramchal, le monde est dirigé quand le temple est construit, quand Israël est sur sa terre, le monde est alimenté de lumière. Cette lumière vient par un grand portail qui est ouvert vers le monde. Et puis, lorsque il y a l'exil, alors le portail se ferme, mais il est remplacé par des fenêtres. Le principe Mashgiach Minachalonot. Dieu donne sa providence à travers des lucarnes et des fenêtres. Mashgiach Minachalonot, Metzitz Minacharakim. Il observe par les fenêtres et il protège par les lucarnes. Et pendant tout le temps de la galoute, donc l'état du monde est médiocre, mais malgré tout, le monde tient. Jusqu'au moment de la Géoula où le portail doit s'ouvrir à nouveau. Mais pour que le portail s'ouvre à nouveau, il faut d'abord fermer les fenêtres. Et donc les fenêtres se ferment de plus en plus jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'une. Et lorsqu'elle est fermée, il y a un moment d'obscurité dans le monde. Et juste après, le portail s'ouvre. Ce moment d'obscurité dans le monde, c'est le pire des moments de l'histoire d'Israël, dit-il. Et effectivement, nous avons vu que juste avant la libération d'Israël, lors de la déclaration d'indépendance de l'État en 1948, dans les quelques années précédentes, il y a eu la pire des catastrophes de notre histoire. Ce qui est surprenant, c'est de voir que le Ramchal, très lucidement, nous annonce cette éventualité dans l'histoire. Il y a également cette idée très importante que l'histoire est en soi ce qu'on appelle une marche des idées. C'est-à-dire, il y avait un philosophe du nom de Hegel en Allemagne qui était inspiré par Vico, qui probablement a été inspiré également par Ramchal et en tout cas par le Maharal de Prague, comme quoi l'histoire serait une sorte de dialectique historique qui fait avancer le monde des idées dans le sens platonicien du terme, qui se manifeste à travers l'histoire. Il y a un moment pour chaque idée, sous forme de thèse, qui invite une antithèse, qui va créer une synthèse, et que cette synthèse va devenir en soi une nouvelle thèse, qui va créer une nouvelle antithèse, etc. C'est-à-dire que l'histoire est en ascension perpétuelle, cette idée se retrouve très fortement dans le Ramchal, dans le Da Tevounot, et dans le Clark Peter Chokhma, également dans le Ma'amar HaGeoula. Il y a également un petit livre important du Ramchal qui s'appelle Taktout Tfilot. Taktout, ça veut dire 515, Gematria, 515 prières. Pourquoi 515 prières? Parce que les sages nous disent que Moïse, Moshe, a fait 515 prières pour rentrer en Eretz Israël. Selon la gématria du mot va être hanan, j'ai supplié de pouvoir entrer en Eretz Israël, le mot j'ai supplié va être hanan a pour valeur 515. Et donc si Moshe a fait 515 prières pour pouvoir entrer en Eretz Israël, Ramchal dit il faut faire 515 prières pour amener la Géoula. Et nous avons donc son livre, le Taktout Tefillot, les 515 prières de Ramchal qui sont sublimes pour l'avènement de la Géoula, sans parler également de son petit livre Shivim Tikkunim, les 70 réparations, qui sont en parallèle avec le livre du Tikkuné Zohar. Le Tikkuné Zohar, qui fait partie du Zohar, nous donne 70 chapitres pour expliquer le mot Bereshit. Et dans le Shivim Tikkunim, dans les 70 Tikkunim de Ramchal, vous avez 70 interprétations du dernier verset de la Torah. Si le Tikkuné Zohar parle du premier verset, alors le Ramchal parle du dernier verset, ce qui lui donne un petit livre de 70 chapitres autour du dernier verset de la Torah. Là, je voudrais revenir un peu en arrière, avec votre autorisation, dans le Messilat Yesharim. Le Messilat Yesharim, qui est en fait quand même le premier livre du Ramchal que l'on étudie. On ne parle pas également du Sefer HaDrachim. Je ne vois pas votre inscription au cours. Seconde.
Oh, pardon, je suis trompé de copier-coller. Question de Dan. Cela signifie-t-il que nous avons connu la période la plus difficile pour notre peuple?
Quelle est la question?
Le fait que le Ramchal ait écrit ça, est-ce que ça veut dire que c'est la période, est-ce qu'on a passé la période la plus difficile pour notre
Oui, nous
peuple?
avons passé ça. C'était la Shoah. La Shoah, 6 millions d'assassinés en 3 ans, c'est pas n'importe quoi, n'est-ce pas? Et donc, nous avons passé la période la plus difficile. Certains disent que la guerre de Magog, de Gog et Magog est plus difficile, mais rappelez-vous que selon certaines traditions, la guerre de Gog et Magog ne doit durer que 3 heures. Donc, tenez-vous bien, quand commence la guerre de Magog et Magog, allez faire la sieste et réveillez-vous 3 heures plus tard, tout ira bien. Je reviens donc au Messilat Yesharim. Le Messilat Yesharim, indépendamment du débat particulier sur l'humilité, le Messilat Yesharim est une sorte de sentier. Messila veut dire un sentier. Yesharim, de ceux qui sont droits. Et le Messilat Yesharim, en fait, est composé de 9 enjeux de moralité qui sont basés sur l'enseignement de Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair, dans la Guémara, dans différents endroits, nous donne une sorte de progression morale qu'il faut acquérir pour accéder finalement à la prophétie. Et c'est, je reprends ici le texte de la Guémara, de Rabbi Pinchas Ben Yair. Il dit, Torah mevi'a lidei zehirut, zehirut mevi'a lidei zrizut, zrizut mevi'a lidei kenekiut. La Torah amène à être attentif, zehirut. Le fait d'être attentif nous amène au zèle, zérizout, et le zèle nous amène à la propreté de la pensée, nekiout. Et puis après, ça continue. Tout ça nous amène à perishut, chassidut, tahara, tahara, chassidut, c'est-à-dire l'ascèse, la pureté et la piété, chassidut. Et après, il y a encore trois autres moments qui sont Anava, Giratret, Kedusha, l'humilité, la crainte du péché et la sainteté. Et puis après, Rabbi Mitras Ben Yair continue. La Kedusha nous amène au Ruach HaKodesh, à l'Esprit Saint. Et le Ruach HaKodesh nous amène à Eliyahu HaNavi, qui nous amène à la résurrection des morts. Voilà, ça c'est donc la trajectoire morale. Ça commence par la Torah, ça finit par la résurrection des morts. Et au milieu, il y a le travail moral. Or, ce travail moral, pour le Ramchal, se divise en 9 étapes seulement, qui sont Zehirut, Zrizut, Nekiyut, Rishut, Tahara, Chassidut, Anava, Yiratret et Kedusha. Et si on est attentif, on voit que, en fait, il s'agit de 4 phases différentes. Les 4 phases différentes, ce sont les initiales du mot Yitzhak. Yitzhak, le deuxième de nos patriarches. Vous connaissez la prière de Nishmat Kol Chai. Dans Yitzhak, vous avez Yesharim, Tzadikim, Chassidim, Kedoshim. Ce sont 4 étapes que l'on doit traverser pour devenir un être absolument parfait sur le plan moral. Yachar, Tzadik, Chassid et Kadosh. Yachar, c'est le droit. C'est pour ça que ça s'appelle Mesilat Yesharim. C'est quoi le droit? C'est celui qui veut être Tzadik. Il ne l'est pas encore, mais il le sera. Et là, pour acquérir le fait d'être tzaddik, il faut 3 moments. Zehirut, Zerizut et Nekiyut. Zerizut, c'est être attentif. Pardon, Zehirut, être attentif à ne pas faire le mal. Zerizut, être zélé pour faire le bien. Et Nekiyut, ne pas avoir d'inclination à se permettre le mal. Ça, quand on a ces 3 phases-là, on est arrivé au niveau de tzaddik. Ça, c'est jusqu'au 11e chapitre du Messilat Yesharim. Après, vous passez à la deuxième phase, qui est comment devenir chassid. Pour devenir chassid, il y a Pirishut, Tahara et Chassidut. Je vais, disons, être très bref, ça veut dire faire plus que le bien. Faire plus que le bien, c'est plus qu'être tzaddik, c'est être chassid. Pour être chassid, il faut passer par une phase de restriction du champ matériel. C'est-à-dire qu'il faut, pour cela, par exemple, moins manger, même ce qui est permis. Moins de jouissances du monde, même si ces jouissances sont autorisées. Et puis après, on arrive à la Kedusha. La Kedusha, le Kadosh, passe par 3 phases, Anava, Yiratret et Kedusha, l'humilité, la crainte du péché et la sainteté. Et là, il y a une sorte de révolution copernicienne. Alors que pour être chassid, il faut restreindre le champ des jouissances matérielles. Pour être Ça dit que pour être kadosh, par contre, le kadosh est celui qui est tellement lié à la connaissance de Dieu que tout est sanctifié chez lui. Et donc, il mange plus que le tzaddik. Il va jouir de ce monde et il va arriver donc à un état d'être dans lequel il y a une harmonie profonde entre sa vie intérieure et sa vie extérieure. Alors, contrairement à l'idée qui est que l'homme moral est un homme qui fuit le monde, le Ramchal nous dira que ce n'est vrai qu'au milieu, la phase du tzaddik. Mais une fois le tzaddik dépassé, c'est alors qu'on arrive à la kedusha, à la sainteté qui va sanctifier toutes les activités de la vie. Et donc, de ce point de vue-là, le Ramchal est un annonciateur de la pensée du Rav Kook. La pensée du Rav Kook qui est que la sanctification de la nature, de la vie naturelle, de la vie terrestre, c'est l'enjeu de la vie d'Eretz Israël. Alors, chez le Ramchal, ça se passe au niveau de l'individu qui arrive à être kadosh. Chez le Rav Kook, ça passe au niveau du klal. C'est le klal qui est le lieu, le réceptacle de la sainteté de la nature. Donc, on voit déjà comment le Ramchal est à l'origine également, non seulement donc du chassidisme, de la Haskalah et de la Tnouat HaMoussar, du mouvement du Moussar, mais est également une des sources d'inspiration essentielles de la pensée du Rav Kook. Donc on peut dire que le Ramchal n'est pas n'importe qui, il est pour nous une des grandes lumières du peuple juif. Pourquoi est-ce que le jour de la Hiloula du Ramchal, c'est le 26 du mois de Iyar? Vous allez me dire parce que c'est le jour où il est mort. Mais je demande pourquoi est-ce qu'il est mort ce jour-là? Il est mort ce jour-là parce que dans le conte du Homer, dans la Sphira Homer, c'est le moment de ce qu'on appelle Yesod Sheba Yesod. Yesod étant une des midot, étant une des séphirot du monde kabbalistique, et qui représente la fécondité. Le Yesod, c'est la fécondité. Or, la fécondité est la chose la plus sainte pour le peuple juif. Croissez et multipliez, augmentez la vie, c'est ça l'enjeu de la morale dans le judaïsme, contrairement aux intuitions du christianisme, par exemple, qui voit dans la sexualité le mal absolu. Pour le judaïsme, au contraire, c'est le lieu de la sainteté absolue. Or, le grand maître de la morale pour Israël, c'est le Ramchal. Donc, il est tout à fait normal que sa hiloula se passe au moment culminant de la morale juive, qui est le Yesod, Sheba Yesod, qui est le 26 du mois de Iyar. À quoi sert, demande Yonatan, à quoi sert cette restriction matérielle? La restriction matérielle est nécessaire pour créer une sorte de balancier. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas vécu la connaissance de la restriction matérielle, on est happé, on est emprisonné par les désirs de la nature, et donc on ne peut pas se sanctifier. Une fois qu'on s'est prouvé à soi-même que l'on est capable de renoncer provisoirement aux jouissances de la terre, c'est alors que on est capable également de tout sanctifier. C'est là qu'on devient véritablement libre. Ce n'est qu'un homme libre qui peut sanctifier tout. Rappelons une chose, c'est en rapport avec l'histoire bien connue de Rabbi Zusha. Cette histoire que je vous ai racontée plusieurs fois, probablement, que Rabbi Zusha, un des grands maîtres du chassidisme, reçoit la visite d'une femme qui lui dit: « Je voudrais avoir un enfant, Vodarav, priez pour que j'aie un enfant. » Alors il se met à prier pour que cette femme ait un enfant, et il entend une voix du ciel qui lui dit: « Zusha, ne fais pas cette prière. Je ne veux pas que cette femme ait un enfant. » Alors Zusha continue sa prière, il entend une voix du ciel qui lui dit: « Si tu fais la prière, elle aura un enfant, mais toi, tu n'auras pas ton paradis. » Réaction de Zusha: ah, enfin, je vais pouvoir servir l'Éternel sans espérer de récompense. Il continue sa prière et il entend une voix du ciel qui lui dit: Zusha, si tu continues à prier, cette femme aura un enfant, mais ton paradis, tu le recevras quand même. Il continue à prier. C'est-à-dire qu'il a compris qu'il y a un moment de son évolution morale dans lequel il doit être capable de renoncer à toute jouissance, même à son paradis. Et puis après, il comprend que il a péché en ne recevant pas le cadeau de Dieu. C'est un péché. Donc, il doit faire teshuva de ça et accepter la jouissance. Mais cette fois-ci, non pas de manière intéressée et basse, mais par idéal. C'est là qu'intervient ici une question. Si on voit l'approche du Rav Kook comme étant au niveau du klal, cela dispense-t-il chaque individu d'accéder à la prophétie, car au niveau du klal, elle finira par arriver? Très bonne question. La réponse est non. Mais c'est vrai que pour arriver à la prophétie au niveau individuel, il est nécessaire d'être aidé par l'état du monde. La prophétie n'est pas simplement un phénomène individuel, elle est l'expression d'un état, d'un nouvel état d'ascension du monde vers un niveau supérieur. Je pense que nous avons fait ici un tour, un parcours intéressant à travers le personnage du Ramchal. Et s'il y a encore des questions, je suis là pour essayer d'y répondre. Bonjour Rav, comment peut-on savoir que l'enseignement du Ramchal vient bien de la tradition? Car vous dites que c'est un nouveau Zohar. Donc vous n'avez qu'à l'étudier et voir de quelle manière il y a un éclaircissement lumineux de la tradition zoharique par les enseignements du Ramchal. C'est-à-dire le nouveau Zohar, c'est un renouvellement du Zohar. Vas-y, David.
Alors, si j'ai. Oula.
Non, c'est bon.
Si j'ai pas le temps d'étudier, est-ce qu'il vaut mieux étudier le Ramchal ou le Hari ou Rav Luria?
Commencez par le Ramchal, c'est plus simple. Commencez par son livre Derech Chochma. Dans le Derech Chochma, il y a des introductions aux enseignements du Hari.
Et si Derech Chochma, c'est encore un peu compliqué, est-ce qu'il y a encore.
Alors renoncez. On ne peut pas tout faire. Non, mais le premier livre qu'on étudie quand on rentre dans la Kabbale, c'est le Sha'arei Ora.
Arav, cher Kiss, s'il n'y a pas d'autres questions, messieurs, dames, vous pouvez allumer vos micros.
Donc je vous laisse.
S'il n'y a pas d'autres questions, Arav, Todaraba, Shavuatov.
Shavua Tovoar, à bientôt. Shalom,
Shavuatov,
shalom.
Shalom. Merci, mon. Shalom à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez profité de ce dernier cours de cette matinée d'études à la Yeshiva d'Oro de Kelim. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est payant la Yeshiva. Voilà. Comme ça, c'est fait. Ouais. Tout est prévu. Bref, en vous souhaitant à tous une excellente journée, vous recevrez les enregistrements dans la journée, Be'ezrat Hashem, cet après-midi. Et voilà, s'il n'y a pas d'autres questions.
Merci David, merci beaucoup, Shavuot.
On se retrouve à Akko ou à Tibériade ce soir, David?
Le vrai kabbaliste se retrouve dans les deux en même temps.
Okay.
Voilà, moi je dis ça, je dis rien.
Shavuot.
Shavuot. Shavuot,
Todaraba, David, Shavuot. Shavuot.
David, garde ton sourire.
Toujours, c'est un principe.
Elle sera court dimanche prochain?
On va cours dimanche prochain sur Shavuot.
Ah, d'accord.
Bezrat Hashem. Voilà. Ok, il y a la.
Shalom, shalom.